Avec Gilles Audette, même si vous souhaitez parler affaires, vous parlerez immanquablement d'écologie, d'environnement, des risques des pesticides et bien sûr des avantages de la production biologique. Bien sûr aussi, Gilles Audet vous parlera au passage du ratio C sur N, c'est-à-dire le ratio carbone-azote. Il parlera des faux semis, nom que l'on donne à certaines opérations mécaniques de désherbage. Mais surtout, vous comprendrez que, pour Gilles Audet, la production biologique, ce n'est pas une question de mode. Ce n'est pas non plus une opportunité d'affaires comme une autre. J'ai discuté avec lui dans un champ de maïs sucré, bio, bien sûr.
Gilles Audet, président d'AgriFusion 2000 Incorporée, ferme biologique dans le comté de Vaudreuil-Soulanges.
Ferme biologique et pas n'importe laquelle. Là. Est-ce que c'est vrai, la plus grosse au Québec?
Je dirais la plus grosse au Québec, c'est sûr. Puis au Canada, une des plus grosses. On cultive presque 8000 arpents en légumes, bio, soya, maïs, brocoli, carottes, épeautes, etc.
Donc, c'est assez varié. Là.
Ouais, exactement. La clé du succès en bio, c'est la diversité. Les cultures de légumes de transformation s'intègrent très bien au système grande culture. Puis, ils viennent ajouter 4 ou 5 cultures différentes dans nos rotations. Depuis quelques années, les producteurs de grandes cultures bio avaient une rotation assez simple, c'est-à-dire maïs, soya, blé. C'est un peu court comme rotation. Le plus de cultures qu'on a, mieux c'est. Puis avec l'avenue de Bonduelle dans le bio, ça nous a permis d'intégrer toutes ces cultures de légumes de transformation dans la rotation. Ces cultures-là ont plusieurs avantages. Un, de diversifier. Deux, surtout d'étaler les dates de semis puis les récoltes. Présentement, on est capable de commencer à semer vers le 15 de mai, puis on sème jusqu'au 15 juillet, pratiquement non-stop, parce que la cédule de semis commence avec le maïs grain, ensuite de ça, on va au soya, ensuite, on va aux haricots secs, ensuite, on va au maïs sucré. Après, on va aux haricots de conserverie. Puis en début, il y a les pois de conserverie. Donc, toutes ces cultures-là nous permettent d'avoir une utilisation optimum de toute la machinerie. Si on avait juste 3 cultures, ça serait difficile, disons, d'y arriver avec les superficies qu'on a. Les cultures de légumes de transformation ont beaucoup d'avantages. Un, les pois, c'est une bonne source d'azote pour le sol, puis on est capable de faire des engrais verts de qualité après une culture de pois de conserverie. C'est une culture qui prend 60 jours à se rendre à maturité, donc on est capable de mettre un engrais vert vers le 15 ou 20 juillet. Ça fait qu'à ce moment-là, si on se rend avec l'engrais vert fin septembre, début octobre, on a des rendements en matière sèche et en azote vraiment intéressants. Les autres cultures, comme les haricots, nous ont permis de contrôler beaucoup mieux les vivaces.
Là, on parle de mauvaises herbes.
Oui. C'est un avantage indirect de cette culture-là. On sème entre le 10 et le 20 juillet. On est capable de faire des faux semis à partir du début mai jusqu'au 15 juillet. À ce moment-là, toutes les vivaces, comme le laiteron, le chardon, le chien d'Inde, le fait d'être cultivé souvent au printemps, on est capable de s'en débarrasser complètement. Tandis que si on avait uniquement la culture de blé ou de soya, il faut semer le plus tôt possible, puis c'est pas possible à ce moment-là d'avoir une série de faux semis. Fait que ça, c'est un avantage indirect des légumes de transformation. Le maïs sucré a aussi beaucoup d'avantages. Premièrement, on le sème entre le 10 et le 25 presque le 1er juillet. Donc, ça nous donne beaucoup plus de temps. Puis là, présentement, on est au milieu de septembre, puis on est en train de faire la récolte. Ça fait que le maïs grain est encore pour 3 semaines dans le champ, puis là, on a une récolte de maïs sucré qui est rendu à terme, puis qu'on sort du champ. Ce qu'on a découvert de merveilleux avec le maïs sucré bio, c'est en plus un engrais vert. Vous voyez l'état de la culture présentement, c'est la culture est verte. Puis à ce moment-là, le ratio C sur N est relativement bas. Pour la libération d'azote pour l'année prochaine. C'est vraiment important. Il y a 3 ans, on s'est rendu compte, dans le champ où on se trouve présentement, on avait à moitié en maïs grain puis à moitié en maïs sucré. L'année suivante, en soya, il y avait 1 tonne de plus à l'hectare dans la section maïs sucré que dans le maïs grain. Ça nous a surpris, puis on se demandait pourquoi. Puis le ratio C sur N dans le maïs grain est vraiment élevé, donc il va demander beaucoup d'azote pour se décomposer l'année suivante. Puis tandis que le maïs sucré, lui, va libérer de l'azote, puis même si le soya n'a pas nécessairement besoin d'azote, il en profite énormément de la rotation maïs sucré suivie d'un soya.
Et là, est-ce que vous allez enfouir ça maintenant?
Si vous regardez dans le champ de l'autre côté,
oui,
on est en train de broyer les tiges, puis ils vont être enfouis immédiatement. Disons, d'ici 24 heures, tout va être enfoui. Donc, la décomposition va pouvoir commencer dès maintenant. Puis, vu que le ratio C sur N est bas, puis qu'on a des plantes qui sont vraiment vertes, la décomposition, elle s'active immédiatement.
Qu'est-ce qui vous a convaincu? Il y a combien de temps que vous êtes dans le bio? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller dans le bio?
Premièrement, ça fait depuis 2003 qu'on y songe. La première réaction pour aller en bio, ça a été au début des années 2000, fin des années 90, début 2000, les grandes cultures commerciales, la rentabilité était loin d'être bonne. En fait, la plupart des producteurs vivaient avec les subventions de l'ASRA, c'est-à-dire l'assurance stabilisation. À ce moment-là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. À ce moment-là, on avait différentes hypothèses de recherche, puis le bio est venu sur la table. On a mis les chiffres bio dans un chiffrier Excel, disons, les rendements potentiels qu'on pouvait avoir, les prix qui existaient à ce moment-là. Puis quand on a fait Enter, tout le monde a été surpris. On s'est dit, c'est trop beau pour être vrai. Puis habituellement, ce qui est trop beau pour être vrai n'est pas nécessairement vrai, mais dans le cas du bio, ça s'est avéré mieux que prévu.
Ce que vous donnait le chiffrier, après coup vous le constatiez, c'était non seulement vrai, mais même en deçà de la réalité.
Exactement. Parce que les rendements, on avait mis des rendements vraiment conservateurs, avec des prix conservateurs, puis la rentabilité était là. Puis ce qui nous a convaincu le plus, c'est que pendant 5 ans, on a fait la transition vers... parce qu'on n'a pas été capable de tout mettre en bio la première année. C'était, disons, les superficies étaient beaucoup trop importantes. Mais chaque année, on voyait la rentabilité du bio versus le conventionnel chez nous. Ce n'était pas des chiffres théoriques tirés de revues de littérature. C'était notre champ de maïs bio, il donne ça. Notre champ de maïs conventionnel, il donne ça. Puis la différence de rendement, c'était plus que le 5 au double. Ça fait qu'on a, à partir de ce moment-là, au bout de 2 ou 3 ans, on a entrepris une transition à vitesse grand V parce que la rentabilité était là. Ça, c'est, disons, le premier côté pour le bio. Bien, en fait, il y en a plus que ça. Parce que la transition bio, c'est 2 ans, puis la troisième année, t'es bio. La transition bio-mentale, ça fait 30 ans que tu cultives d'une façon. Te débarrasser de tes vieilles habitudes puis tes vieux préjugés, ça a pris, on pourrait dire, 6, 7, 8 ans. Puis là, présentement, je pense qu'on a intégré dans notre gestion vraiment une mentalité bio. Puis c'est ça qui est le plus long à développer, parce qu'au départ, d'une quinzaine d'années, il n'y avait pas beaucoup. Puis ce qui est difficile pour un producteur, c'est d'avoir cultivé pendant 30 ans, puis se remettre en question. T'sais, c'est pas qu'on faisait les choses mal, mais on peut-tu les faire autrement? C'est-tu mieux? Puis la réponse a toujours été oui, oui, puis ça presse. Puis ce qu'il y a d'intéressant avec le bio, c'est qu'au point de vue environnemental, c'est à peu près la seule solution pour parer à la catastrophe écologique qu'il y a présentement. Juste hier, dans le soleil, ils ont sorti une étude à grande échelle sur les impacts des pesticides puis des traitements de semences. C'est dévastateur. Cette étude-là a été menée par une équipe pluridisciplinaire mondiale, puis arrive tous à la même conclusion, on est en train de détruire tout le système biologique. Juste dimanche passé, pour un petit peu étayer cette affirmation-là, à découverte, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'oiseaux dans les campagnes. Le nombre d'hirondelles a chuté de 70 à 80 % depuis les dernières années. Il y a d'autres espèces aviaires aussi qui ont toutes disparu. Les taux de chute, là, c'est entre 60 et 90 %. Puis pour eux autres, c'était clair, net et précis, c'est que tout le système présentement qui permet à ces oiseaux-là de se nourrir puis de se produire les empoisonne. C'est leur conclusion, puis une conclusion qui constate un désastre comme ça, c'est réaliste de penser que c'est vrai. Les abeilles, c'est un autre exemple. Consensus mondial est clair, net et précis. Les traitements de semences néonix, c'est catastrophique. Ce qu'il y a encore de plus catastrophique, c'est la réaction des producteurs de grandes cultures du Québec, puis de la Fédération. Ce matin, ils sont sortis un peu à la Trump pour nier complètement ces études-là, que les gens qui avaient fait ça, ils ne connaissaient rien là-dedans, puis qu'eux autres, leurs études, que tout était beau. En fait, il y a des climato-sceptiques, mais au Québec, d'un producteur de grande clôture, il y a des pestico-sceptiques qui sont appuyés très fort par l'industrie.
Ici Lionel Levac. Peut-être tout bonnement qu'une demande croissante de la part des consommateurs pour des aliments biologiques viendra à bout de ceux que Gilles Audette appelle les pestico-sceptiques. Les arguments de rendement plus faible ne tiennent plus. Et donc, oui, il devient possible de produire suffisamment d'aliments pour la planète avec des pratiques agricoles beaucoup plus douces et sécuritaires. Prochain blog, je poursuis la discussion avec Gilles Audette et je rencontre l'agronome Robert Deschamps, directeur agricole pour Bonduelle au Québec. Au revoir.